près de 150 migrants ont été interpellés à Calais. Une vaste opération policière, 300 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Concrètement, selon vous, à quoi sert cette opération? Est-ce qu'elle sert vraiment, comme le dit le ministre, à démanteler les filières?
Non, ça nous ne le croyons pas, parce que premièrement, les passeurs, entre guillemets, ont l'intelligence de ne pas rester dormir avec les migrants, puisque l'opération a débuté de bonne heure ce matin, au moment où les migrants, justement, sont dans leur repos, et donc les passeurs ne sont pas du tout avec eux. Nous, on considère qu'une fois de plus, c'est lorsque un ministre annonce sa venue à Calais, c'est déjà arrivé maintes et maintes fois, que l'on essaie d'enlever une bonne partie des migrants. Voilà, bon, il nous est arrivé dans un temps qui n'est pas si loin, lorsque M. Sarkozy venait à Calais, de cacher dans une église de Calais pendant 3 ou 4 nuits au moins une centaine de migrants pour qu'ils soient au moins visibles le jour que M. Sarkozy venait. Voilà. Donc nous pensons encore une fois que c'est lié à la venue de M. Besson, puisqu'il vient jeudi après-midi à Calais. Deuxièmement, c'est toujours dans la ligne de la répression, on n'en sort pas. C'est la répression à 100%, autant vis-à-vis des réfugiés en premier, bon, ensuite par rapport aux passeurs, mais nous on rappelle que les passeurs à Calais, ce sont des petits passeurs, ce sont des citoyens des pays d'origine des migrants qui sont là simplement parce qu'ils n'ont rien pour gagner un peu d'argent pour traverser l'Angleterre. Les gros passeurs ne sont pas à Calais, ceux qui tirent les ficelles de toute la filière vers l'Europe, ils sont principalement en Angleterre. Bon, donc c'est une démonstration de force à l'égard des migrants pour les apeurer. Aussi une intimidation à l'égard des bénévoles, puisque depuis janvier, vous savez sans doute que des bénévoles ont été à nouveau amenés à la police des frontières, gardés toute une journée, interrogés, relâchés, etc. Enfin là, on est dans une phase actuelle qui est en augmentation au titre de la répression.
Les migrants qui ont été arrêtés ce matin, concrètement, où est-ce qu'ils ont été portés? Qu'est-ce qui va leur arriver maintenant?
Alors actuellement, ils sont partagés entre Calais, Boulogne et Lille, où comme d'habitude, si parmi eux il y a des reconductibles comme les Afghans, seront conduits dans des centres de rétention en attendant un prochain départ de charter. S'ils ne sont pas reconductibles, ils seront relâchés. Bon, la plupart du temps, c'est ainsi. Ils sont contrôlés et lorsque le ministre est reparti, ils sont relâchés. Donc, dans quelques jours, on va les retrouver dans les rues de Calais.
Est-ce que ce sont des immigrés clandestins ou est-ce que ce sont des réfugiés qui auraient le droit d'être accueillis?
Non, à Calais, ce sont des clandestins, c'est-à-dire ceux qui n'attendent plus rien de l'Europe et qui espèrent encore un petit peu, de l'Angleterre. Mais là aussi, ça va très très vite changer puisque, comme vous le savez sans doute, l'Angleterre vient de décider l'instauration obligatoire d'une carte d'identité, ce qui permettait auparavant aux migrants de rester tranquilles en Angleterre puisqu'il n'y avait pas de contrôle et que sans carte, on pouvait trouver du travail, etc. Bon, tout ça, ça va changer. Donc maintenant, lorsqu'il y aura des contrôles, les migrants seront renvoyés vers le dernier pays traversé, c'est-à-dire vers la France. D'où l'idée que le gouvernement anglais actuellement a en tête et l'a proposé dernièrement à la France, c'est de créer un centre de non plus de rétention, mais de détention, c'est-à-dire une véritable prison dans la périphérie de Calais pour accueillir tous ceux qui seront rejetés par l'Angleterre.
Vous qui voyez cette situation au jour le jour, qui êtes au contact tous les jours avec ces immigrés, est-ce que vous estimez que la situation empire depuis toutes ces années, depuis la fermeture du centre de Sangatte?
Tout à fait. Les 3 premières années, nous sommes restés autour d'un chiffre, mettons, maximum de 150. Et depuis l'an dernier, ce chiffre, il a pratiquement plus que doublé, puisque il se situe entre 600 et 700 migrants depuis le mois de janvier. Et ça veut dire que dans un rayon de 100 km autour de Calais, la totalité des migrants tourne autour de 1600-1700. Qui est énorme, ce qui pose de vrais problèmes même pour les associations parce que le nombre de bénévoles n'augmente pas en proportion et que il faut essayer quand même de les nourrir, de les vêtir, de les soigner, etc. Tout ça est à charge des associations puisque l'État, considérant que ce sont des clandestins, donc ils n'existent pas, donc l'État ne fait rien pour eux. Voilà. L'aggravation vient que le nombre pose des problèmes déjà entre eux. Bon, la surface de Calais, elle est quand même réduite, donc c'est des agressivités, des bagarres entre eux, et puis la difficulté pour les associations humanitaires de vraiment faire face. On est au bout d'un tunnel qui va s'aggraver lorsque l'Angleterre sera hermétique à cause de l'instauration des cartes d'identité, ce qui veut dire que les migrants, ils vont être prisonniers d'une Europe qui ne veut pas d'eux et dans laquelle ils ne peuvent pas vivre normalement puisqu'on leur interdit tout droit et tout titre de séjour. Et après, il faut quand même savoir, et malheureusement on n'en parle pas assez, c'est que l'Europe a décidé de demander à certains pays comme la Libye et la Tunisie de créer des centres de détention pour accueillir les migrants qui ne pourront pas être renvoyés chez eux. Et ces centres, il y en a un qui est déjà fini à côté de Tripoli, un autre qui est en train de se construire en Tunisie. Voilà, et quand on sait les droits de l'homme dans ces pays-là, ça peut aussi fortement inquiéter. On en est là aujourd'hui, ça devient gravissime.
Vous évoquiez tout à l'heure les difficultés aussi des associations. On a entendu parler des craintes des associations aussi de la création d'un délit de solidarité. Est-ce qu'il est aussi de plus en plus difficile pour vous d'agir auprès de ces migrants ?
Difficile pour nous, c'est à cause du nombre et qu'il faut trouver bien pour les nourrir chaque jour, etc. Ça, c'est la difficulté au quotidien. Le reste, on prend le risque et on assume ce qui peut nous arriver. Alors, ce qu'on évite de faire, c'est quand même des actes individuels. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui ne prendra pas le risque d'amener chez lui quelqu'un pour faire prendre une douche simplement, ou l'amener en voiture pour le conduire à l'hôpital. Bon, parce qu'on est quand même surveillé, on est suivi, etc. Donc les démarches se font collectivement. Qui fait que ni la justice ni la police, jusqu'à présent, ne s'en est pris à des démarches collectives. Mais on est sur le fil rouge, si vous voulez, ça bascule du jour au lendemain. Vous savez, quand la justice et la police veut mettre le paquet, elle le met. Bon, voilà. La difficulté actuellement est surtout de gérer la situation à cause du nombre. Là, je m'en vais rejoindre le repas du midi, parce que les bénévoles ne sont pas assez nombreux. Que les événements de ce matin vont stresser énormément les migrants, donc risque d'agressivité, vous voyez. Tout ça, après, ce sont les associations qui doivent le gérer et le porter, ce qui n'est pas toujours évident.
Quelle solution peut-on voir à ce problème ? Est-ce que vous-même, vous auriez une idée à proposer ?
Je crois qu'il y a plusieurs petites idées. Premièrement, la première qui malheureusement n'existe pas, il faudrait quand même que l'Europe se mette autour d'une table et réfléchisse à ce problème de l'immigration. Moi, quand j'entends des députées européennes, et j'en rejoins une dans quelques instants à Calais, Hélène Flautre, les députés européens me disent « mais la question est à peine abordée au Parlement européen ». Donc il faut commencer quand même que les partis politiques et les États puissent réfléchir en profondeur par rapport à cette immigration qui va continuer, qu'on le veuille ou non, parce que ceux qui quittent leur pays n'ont pas 36 choix. S'ils restent chez eux, ils meurent. Et s'ils partent, ils risquent peut-être d'arriver là où ils pourront un peu mieux vivre. Bon, ça c'est une première étape. La deuxième étape dans une réflexion globale, c'est de voir que pour certains pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces gens quittent leur pays ? Donc ça veut dire leur donner les moyens de vivre, etc. Il faut savoir que la plupart de ceux qui viennent en France ou en Europe, leur recherche, c'est une recherche de formation ou d'études, parce que la moyenne d'âge, c'est 20 ans, que leur pays ne leur fournit rien, trop pauvre. Et pourquoi pas faire un contrat avec ceux qui souhaiteraient avoir une formation ou quelques années d'études en disant « Ok, on vous accueille, on vous donne les moyens et ensuite vous vous engagez de repartir chez vous et nous on vous aide à vous installer et même à former d'autres. » Voilà. Alors j'entends une nouvelle formule et je lui demanderai plus clairement ce qu'il met derrière de M. Besson. Il ne parle plus d'immigration choisie qui était une horreur, mais il parle d'immigration tournante. Et je pense que derrière le mot tournante, il y a un peu cette idée que je viens d'exprimer. Voilà. Passer un accord pour quelques années, mais ensuite le migrant repart. Et sincèrement, je crois que la plupart joueraient ce jeu-là de repartir s'ils ont une véritable formation et des moyens pour s'installer chez eux.